Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de Vivante Église aujourd'hui. Ô Jésus de grâce, change-moi. En sous-titre, Libère-moi de moi, un livre paru aux éditions Baudelaire. On en parle dans un instant. Ô Jésus de grâce, change-moi, libère-moi de moi, un livre de Daniel Desbois, un livre qui se concentre sur l'approche psychologique du changement intérieur. L'auteur explore comment les individus peuvent surmonter leur résistance interne et revenir à eux-mêmes pour vivre une transformation authentique. Daniel Desbois aborde les mécanismes psychologiques qui empêchent souvent les personnes de changer durablement. Il propose des exercices et des méthodes pour aider les lecteurs à comprendre et à accepter ces résistances et trouver des moyens pour les surmonter. Daniel Desbois, psychologue, il pratique l'écoute psycho-spirituelle. Il a travaillé sur l'articulation entre croissance psychique et expérience spirituelle. Daniel Desbois, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est tout un programme, vous êtes donc auteur de ce livre qui est paru récemment, je redis le titre de cet ouvrage, Ô Jésus de grâce, change-moi, et en sous-titre, Seigneur, libère-moi de moi. Donc on va parler aujourd'hui de ce changement qui invite parfois à un long processus de travail, travail intérieur, travail peut-être au fond d'accompagnement psychologique. Qu'est-ce qu'on entend par la psychologie, Daniel Desbois?
On entend l'homme avec un grand H dans cette dimension qui n'est pas que psychologique, puisqu'il y a la partie physique, la partie spirituelle. La psychologie, c'est l'histoire de la personne, c'est la relation qu'il va avoir déjà très tôt. C'est la découverte de l'amour ou la découverte de l'absence d'amour. C'est une aventure qui s'engage, une aventure humaine. La psychologie tourne autour de cela. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas, la psychologie touche le cœur de tout homme, de toute personne, même les enfants. Donc c'est un domaine qui est suffisamment large pour commencer à l'aborder.
Alors l'enfant, c'est l'enfant blessé, c'est l'enfant innocent, vous en parlez dans un des chapitres, le chapitre numéro 3 et puis numéro 4 aussi de votre ouvrage. Comment cet enfant innocent, souvent blessé par les débuts de la vie, peut-il surmonter ces obstacles de l'enfant blessé?
Alors, avant de surmonter les obstacles, l'enfant doit d'abord s'adapter au milieu dans lequel il est. Un enfant qui vient... L'enfant, c'est une création de Dieu. Dieu qui est amour. Donc l'enfant n'est qu'amour. Il est rempli d'un amour infini d'emblée par la création, parce que Dieu est un amour infini. C'est la nature de Dieu, l'amour. Et la nature de l'enfant, qui vient d'être créé, c'est l'amour également. Ce qui veut dire que quand il vient dans ce petit milieu, ce couple ou cette famille dans laquelle il va arriver, il attend tout d'un papa et d'une maman, il attend tout, c'est-à-dire un amour infini. Alors évidemment, il est confronté à l'humanité, elle aussi blessée. Et lui, il ne sait pas ce que c'est la blessure. Et il demande, il est en quête, il est les bras ouverts. Il a les bras ouverts et il attend tout de ce papa, de cette maman, cet amour infini. Mais ils sont dans leurs limites, en fonction de leurs histoires personnelles. Il va découvrir qu'est-ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'être aimé. Comment aimer. Il va le découvrir petit à petit. Alors avec plus ou moins de facilité, selon le papa et selon la maman, évidemment. Surtout la maman au départ, c'est elle qui va être, elle, c'est la chair d'elle-même qui vient d'apparaître. Et c'est vrai que cette relation, elle va être très forte, parce que l'enfant va découvrir d'emblée ce qu'est l'amour. Il va le vivre pleinement, totalement. Et ça sera une découverte petit à petit, en fonction de ce qu'il va découvrir de l'amour. Une découverte, mais surtout une adaptation. Pour pouvoir vivre et pour pouvoir être totalement accepté dans ce milieu. Ou pas. selon la qualité des parents, la qualité humaine, la qualité de l'amour de ses parents. C'est l'aventure qui commence.
Donc c'est l'aventure de la vie de ce petit enfant.
Oui.
Vous parlez d'aptitude, trouver des moyens. C'est des moyens de survie dont
vous
parlez. Des moyens
de survie, oui, oui.
Parce que vous en parlez dans votre première partie du livre, d'abord une approche psychologique avant de devenir une approche spirituelle dans ce livre.
Et oui, parce que l'enfant, quand il vient, lui, il vient découvrir la vie.
Mais il attend tout de la vie.
Il attend tout de la vie. Mais seulement la vie, elle va être plus ou moins tronquée. Et il va devoir se mettre sur un régime de survie. Et il va le découvrir et il va l'inventer pour pouvoir tenir dans cette famille. Si la famille est pleine d'amour, de tendresse, il y a une belle communion avec les frères et sœurs qui sont peut-être là ou pas, si c'est le premier enfant. Donc il va découvrir ce milieu et il va mettre en place tout un mode de vie et de survie qui fait que déjà, c'est dans la mesure où on parle de survie, ça veut dire que déjà d'emblée, sa personnalité va commencer à être tronquée. Parce qu'il est fait pour être, d'une certaine manière, à l'image en vue de la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire être imbibé d'un amour infini. Il est fait pour être comme Dieu. Il est fait pour être comme Dieu. Mais voilà, il va se confronter à des humains qui vont le contraindre justement à découvrir que la vie, c'est pas ce que son cœur, son âme attend, c'est autre chose, c'est plus difficile.
Est-ce qu'il part un peu de cette liberté?
Alors pas encore. La liberté, il va la découvrir vers les 3-4 ans quand la raison va commencer à se mettre en place. Parce que là, dans la mesure où il va s'adapter, il faudra qu'il le décide. Plus ou moins consciemment, par des comportements où à 5 ans, 4 ans, 5 ans, là, il va avoir la pensée qui va l'amener à décider des choses, à se positionner. Mais dès l'instant où il va s'adapter, sa personnalité va être tronquée, obligatoirement. Il est fait pour être d'emblée sain, mais il ne va pas être sain d'emblée. Parce qu'il va être, il va commencer à être blessé, étant donné que papa et maman sont des pêcheurs. Hein, dès les origines, ils sont pêcheurs, donc obligatoirement, il est confronté à des pêcheurs. Donc ce qui veut dire que l'adaptation va tronquer sa personnalité, va faire de lui ce qu'il n'est pas, ou ce qui n'est pas prévu par le bon Dieu. Et toute l'aventure de la vie, ça va être de découvrir, de rechercher qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qui je veux être, qui je dois être, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi. Il avait prévu la sainteté. C'est ça l'aventure de la vie, avec tous les aléas que l'on connaît. Alors la sainteté, bien sûr... On va tout faire, on va le découvrir, hein, à mesure qu'on va en parler. La sainteté, il va tout faire s'il a le désir profond. Et puis même s'il n'a pas le désir profond, qu'il découvre la vie comme il peut, la sainteté, on l'a à la fin à 2% ou à 40% ou à 60% ou à 100%. Si on est saint, boum, d'emblée, on va au ciel. Donc c'est ça, l'interrogation de la vie. On ne sait pas comment ça commence. Et, si, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. C'est là que les grandes questions de la vie vont se poser.
Donc vous parlez aussi d'adaptation, vous parlez aussi de cette personnalité qui va s'installer aussi chez cet enfant qui va grandir, cet enfant qui va devenir aussi un adulte, qui va devenir un homme, donc avec finalement ses moyens de survie à travers de nouveaux comportements et puis au fond de nouvelles personnalités. On se camoufle, on crée des personnages, on est dans cette aventure de la vie, mais est-ce qu'on est dans cette aventure de la vie, dans la vraie vie et dans la vraie vérité? Où en est-il cet enfant qui devient finalement avec le temps dans cette aventure qui a commencé pour lui dès le début, dès ce premier cri? Où en est-il dans tous ses comportements, dans cette personnalité qui s'est construite?
Il est dans une découverte perpétuelle, mais il ne peut pas être dans une vérité vraie. Il ne peut pas. La vérité vraie, c'est être comme le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il va être en quête, dans la mesure où on l'aide, hein, bien sûr, dès le départ, avec des papas et mamans qui sont chrétiens. Et puis s'ils ne sont pas chrétiens, il va découvrir de toute façon la vie comme il peut, quoi. Mais la vérité, il ne peut pas la voir. Il ne peut pas la vivre, tout simplement parce que du fait qu'il s'adapte très tôt à un milieu qui est ce qu'il est, il va rentrer obligatoirement dans une... Le mot est un petit peu fort, mais dans une forme de mensonge. Le mensonge, c'est « je ne suis pas qui je dois être ». Mais pourtant, il faudra qu'il fasse avec. Et c'est vrai que dans la mesure où il n'a pas sa véritable personnalité, c'est là qu'il va commencer à y avoir des soucis. À 8 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, il va y avoir cette fausse personnalité, ce faux moi qui va se mettre en
donc
place.
Donc ce camouflage.
C'est ce camouflage. C'est ce camouflage. Et en fin de compte, c'est ce camouflage. Mais le problème, c'est que soit il en a conscience, mais ça sera beaucoup plus tard. Mais la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Donc c'est vrai qu'on a des soucis dans la vie.
Alors pour quelle raison on n'a pas conscience de ce camouflage?
On n'en a pas conscience.
Une forme de déni, on ne veut pas voir.
C'est-à-dire que la personne ne sait pas qu'elle ne veut pas voir. Elle va le voir dans la mesure où elle se rend compte que ses difficultés, les difficultés qu'elle rencontre dans la vie, dans les relations, les problèmes qu'il peut y avoir, la difficulté à s'adapter aux épreuves de la vie, tout simplement, elle se rend compte qu'elle a une fragilité, elle a une difficulté, des comportements qui lui sont plus ou moins reprochés ou pas, hein, avec un comportement soit d'enfermement, soit de rébellion, soit de fuite. Elle va faire comme elle peut. Et c'est quand elle commence à se poser des questions qu'elle va être en quête de sa véritable personnalité. Donc la vie et les épreuves sont là. Vous savez, les épreuves finissent toujours vers la lumière. D'ailleurs, dans la Bible, c'est « il y a eu un soir et il y a eu un matin ». Ce qui veut dire que ça finit toujours par le matin, ça finit toujours par la lumière. Donc même si la fausse personnalité obligatoirement met l'homme avec un grand H dans l'obscurité, plus ou moins marqué, bien sûr, dans l'obscurité, il est toujours destiné à plus de lumière. Et les épreuves de la vie, ce sont des grâces qui sont données par le Seigneur, parce que le Seigneur va passer, justement. C'est pas lui qui va imposer l'épreuve, mais il va amener la personne, par les épreuves, à se poser des questions, à donner sens à l'épreuve, et à mettre la lumière qu'il faut pour que, petit à petit, il découvre qu'il est aimé par quelqu'un qui le dépasse. Il va découvrir le bon Dieu s'il le cherche, petit à petit. S'il ne le cherche pas, ben il va continuer dans une obscurité. Ben il fera ce qu'il peut. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sur terre en étant heureux. Mais le bonheur sur terre ne veut pas dire que c'est un bonheur qui prépare au ciel. Parce que le bonheur sur terre pour le ciel, ben il n'existe pas. Déjà à Lourdes, Marie l'a dit à Bernadette. Mais ce qui veut dire qu'on est sur terre, juste de passage, et on est sur terre pour préparer notre ciel. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à être croyant, quoi. À un moment, il faut l'espérer. Vous voyez ? Et c'est toute cette aventure de découvrir comment dans ma vie, avec toutes les épreuves, les galères même que je peux avoir, en fin de compte, tout ça me prépare en vue d'une lumière plus grande pour ouvrir les portes du ciel et être aspiré par le bon Dieu, qui n'est qu'amour.
Alors quand on vous entend, Daniel Desbois, je rappelle que vous êtes dans cette émission de Vivante Église, présent avec ce livre qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Baudelaire, « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi ». Il y a dans ce livre, et nous le verrons au cours de différentes émissions avec vous, dans ce Vivante Église, il y a l'approche psychologique que nous voyons aujourd'hui un peu avec vous, et la semaine prochaine, et puis plus tard, l'approche spirituelle, on entend bien que ce petit être qui arrive à la vie, qui pousse ce premier cri, entre dans cette aventure. Vous parlez joliment de cette aventure de la vie. Donc ce petit être va avoir ses propres comportements, ses propres choix en grandissant. Vous avez insisté sur cette fausse personnalité, un moyen aussi pour lui de sécurité, de survie, pour en arriver en fait... Est-ce qu'on peut parler déjà de libération, à découvrir sa vraie personnalité, qui il est vraiment? En fait, c'est ça l'aventure de ce petit être, hein, qui est parfois, dès le début de la vie, blessé, blessé par l'amour.
Oui. Et oui, il faut voir que la liberté, on cherche la liberté dans la mesure où on se sait enfermé, sinon on ne cherche pas de liberté. Donc ce qui veut dire que tant qu'il n'a pas la conscience qu'il est enfermé, il ne peut pas chercher la liberté. Et je vois, on n'a qu'à voir, hein, dans notre monde, on ne parle que de ça, être libre, être libre, être libre, mais ça veut dire qu'on est enfermé, en fait. Quand il y a une quête de liberté aussi éperdue, et qui fait qu'on est rempli, on est gavé, surgavé de compensation pour avoir l'impression d'être libre. Mais tant qu'on est dans une quête humaine de compensation, là on fait sans Dieu. Évidemment, sans Dieu, la liberté, ça serait une liberté humaine. Mais ça ne veut pas dire que c'est la liberté divine que Dieu veut nous donner, en étant lui le patron, en fait, de notre existence, pour pouvoir nous donner toutes les grâces dont on a besoin pour être véritablement heureux dans une joie divine, et non pas dans une joie superficielle humaine. Vous voyez, c'est... Et c'est là que la liberté, vous savez, l'expérience que je rencontre, les personnes qui ont vécu même une grande liberté au niveau humain, et qui se rendent compte tout d'un coup, un jour, il va y avoir une expérience, un choc, un divorce, il va y avoir un chômage, une catastrophe quelconque dans la vie. C'est là que, quand il y a un choc terrible, effectivement, que là, la liberté obtenue humainement a ses limites. Et c'est le moment souvent où les personnes se posent d'autres questions, c'est qu'il va falloir sortir de cet étau dans lequel ils sont suite à une épreuve. Sortir de l'étau, c'est avoir conscience que je suis enfermé. Et là, il va y avoir une quête de liberté autre. Et c'est cet autre et ce grand autre qui peut nous l'accorder. S'il y a une quête de liberté divine, spirituelle, et souvent... Je me rends compte que souvent, les personnes, quand elles ont fait une bonne expérience déjà, même heureuse, et puis aussi tout d'un coup difficile, la souffrance amène toujours des questions d'ordre spirituel. Le passage de la souffrance est nécessaire pour pouvoir sortir de la guerre dans laquelle j'ai été, dans l'épreuve, pour essayer et pour avoir une paix que je recherche au plus profond de mon cœur. On est fait pour la paix. Et souvent, la paix passe par la guerre.
Vous donnez dans votre ouvrage un schéma qui montre bien tout l'enjeu de
l'enfermement.
L'enfermement, voilà. Et comment sortir de cet enfermement en vue, au fond, de la libération et d'entrer dans la vraie vie. Parce que cet enfermement dont vous parlez... ne permet pas à ce petit être devenu adulte d'entrer dans cette liberté des enfants de Dieu, j'aimerais presque dire.
Et non,
il est prisonnier.
Il est prisonnier quelque part. Il peut être même prisonnier d'une liberté humaine. Quelqu'un qui vit dans le confort. Alors,
le bien-être. Oui.
Pardon ?
Le bien-être.
Le bien-être, ouais, voilà. Oui. Et ça, c'est ce qu'offre notre société, notre vie humaine. Donc, il y a des personnes qui sont dans un bien-être. Voilà, c'est l'extase pour eux. Mais ça suffit dans la mesure où il y a des sécurités, il y a l'argent, il y a le confort, il y a la joie, il y a les sorties, les voyages.
Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de choc émotionnel.
Il n'y a pas de choc.
La vie est douce.
Elles sont beaucoup plus...
Oui, tranquille.
Exactement. Elles sont beaucoup plus en difficulté que les personnes qui se heurtent à la difficulté de la vie, parce qu'elles sont obligées de chercher quelle est la voie de sortie. Quelle est la voie de sortie ? Quelqu'un qui pense être déjà dehors, parce qu'il est libre, il ne va pas chercher de voie de sortie. Parce qu'il se pense libre. Donc vous voyez l'importance de l'épreuve qui va amener une guerre intérieure et une quête de paix extérieure. Vous voyez, de paix intérieure, bien sûr, pour avoir la paix extérieure. Et ça, c'est le cheminement et l'ouverture à la vie spirituelle. Qu'on le veuille ou pas. Alors, il y a des personnes qui, par extension, elles sont dans l'épreuve. La plupart du temps, souvent, on cherche des solutions humaines. C'est normal, dans un premier temps. Mais c'est quand on est confronté à des échecs, des solutions proposées, sur le plan humain, qu'on se rend compte qu'il y a des limites qui me maintiennent en fin de compte dans un enfermement. Et que là, il va peut-être y avoir besoin d'autre chose, de quelqu'un d'autre, qui va venir me chercher. C'est la grâce de Dieu. Si je veux bien frapper à la porte, qui va m'ouvrir le cœur profond. C'est le bénéfice de l'épreuve.
Alors, on entend, on va méditer, le temps d'une plage musicale. Daniel Desbois, je vous propose de revenir dans quelques minutes et on vous retrouve. Merci.
À tout à l'heure.
Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton souleur. A perdu force et santé. Si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombre peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux.
Présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Daniel Desbois, nous sommes dans ce Vivante Église aujourd'hui. Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur, libère-moi de moi, aux éditions Baudelaire. C'est votre livre. Dans cette émission du jour de Vivante Église et la semaine prochaine, c'est une ouverture pour mieux comprendre qu'est-ce qui se dessine, qu'est-ce qui se vit, quel est l'enjeu de ce petit être d'un point de vue humain et à la fois psychologique. La psychologie peut rejoindre tout le monde aujourd'hui, croyant, non-croyant. Daniel, de votre expérience.
Quelle est la, en fin de compte, quelle est la destinée de cet enfant?
Tout à fait.
C'est ça que ça veut dire.
Tout
en fait.
À fait.
La destinée de cet enfant, c'est le ciel. Même s'il est dans une famille.
Donc, quand vous parlez du ciel, vous parlez de cette éternité.
Absolument.
Ouais.
C'est-à-dire que quel que soit le milieu dans lequel l'enfant vienne, dans un milieu loin de Dieu ou proche de Dieu, de toute façon, la destinée de l'enfant, c'est le ciel. Il ne demande que ça, puisqu'il est né pour ça. Pour connaître cet amour infini, il est déjà né. Lui, quand il vient, il est déjà, c'est le ciel sur la terre, le petit enfant. Donc, il va faire une expérience en cours de vie pour être ressemblant à Christ, pour être ressemblant, pour être cet enfant de Dieu, totalement à la ressemblance de Jésus, à la ressemblance de la Vierge Marie. C'est ça la destinée de l'homme.
Donc, devenir cet enfant de lumière.
Cet enfant de lumière, vous voyez. Et voilà, c'est la destinée. On est sur terre pour ça. Alors après, on fait ce qu'on peut, comme on est.
Donc avec des résistances, des rébellions.
Des rébellions, tout ce que vous voulez, avec cette fausse personnalité qui fait que cette fausse personnalité, il va falloir que j'apprenne à m'en défaire. Et c'est la vie est justement proposée. En fin de compte, on va avoir la vie pour se défaire de soi. C'est le sous-titre du livre. Seigneur, libère-moi de moi. Ce qui veut dire que je ne suis que prisonnier de moi-même. Et sans le savoir, j'empêche la vie de passer. J'empêche la sainteté de passer. J'empêche l'action de Dieu en moi.
Alors, c'est beaucoup de paradoxes, parce que tout homme a le désir de vivre.
Oui.
Et d'être heureux.
Oui.
De s'épanouir, de réussir.
Oui.
Et vous parlez qu'il résiste et qu'il est lui-même prisonnier de sa propre personnalité et fausse personnalité. Donc, cette fausse personnalité ne lui donne pas ce bonheur infini et cet amour infini.
Mais non.
Quel paradoxe.
C'est le paradoxe, évidemment. Il est enfermé et il cherche à se défaire tout seul des entraves, des chaînes qui le retiennent et il a du mal. Il a du mal à le faire.
Alors vous décrivez aussi, au fond, on décrit aujourd'hui un peu cette société, ce monde qui est un peu, et même beaucoup rebelle. Est-ce que je pourrais parler de rébellion par rapport à, vous parlez d'éternité et de ciel.
Oui.
On peut parler aussi de ce ciel, de cette éternité, de ce créateur, de ce Père. Est-ce que c'est une rébellion par rapport au Père créateur?
Eh oui, mais dès le départ, dès qu'il y a eu chute, il y a eu rébellion. Dans la mesure où il y a eu cette désobéissance qui a fait que c'est sûr, le serpent, hein, le malin qui a proposé justement d'être comme Dieu sans passer par Dieu. Et il leur a dit, mais vous pouvez être Dieu, hein, vous pouvez être des dieux, vous pouvez être des dieux. Ça veut dire, vous pouvez vous suffire à vous-même, vous pouvez vous créer vous-même, vous n'avez plus besoin du bon Dieu. Après tout, c'était allégeant. Bon, l'humanité, Adam et Ève, ils ont dit, après tout, c'est quand même pas mal. On voit si on peut se créer, qu'on n'a pas besoin du bon Dieu. Ils ne se le sont pas dit comme ça. Mais ils ne savaient pas ce à quoi ils allaient s'attendre, parce qu'ils étaient dans une innocence totale. Avant la chute, ils vivaient ce que Dieu demandait pour eux. Et ce que Dieu demandait pour eux, ils le vivaient. Ce que eux demandaient à Dieu, il leur était accordé. Donc, ils étaient dans une innocence totale. Ils ne savaient pas ce qu'était le mal. Ils ne savaient pas ce qu'était le mal. Et le malin qui leur propose de faire l'expérience, de connaître le bien et le mal, alors que c'était interdit par le bon Dieu qui a dit ne mangez pas de ce fruit-là. Ils ne savent pas ce que c'est le mal. Ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Dieu leur a dit, mais vous allez mourir si vous faites cette expérience-là. Mais ils ne savent pas ce que c'est que la mort. Donc ils se lancent à l'aventure. Après tout, on nous dit, on va être comme des dieux. Sans Dieu, pourquoi pas? Évidemment, chute. Mais la chute, elle se répercute jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on est dans une aventure humaine où il n'y a plus le bon Dieu. On est séparés. Donc on est des enfants rebelles, puisqu'on est pécheurs. Et cette rébellion, on l'a, même en tant que chrétien, on porte en soi une lutte contre Dieu, malgré nous. Mais attends, mais je suis priant.
Même si on est chrétien.
Même si on est chrétien, ouais. Même si on est engagé, puisqu'on est pécheur, on est en lutte contre le Christ. Je me dis, mais c'est quand même paradoxal. Mais la vie chrétienne, je vous dis, ça n'est fait que de paradoxes. Hein. C'est quand tu meurs que tu vis, c'est quand tu es pauvre que tu es riche. Quoi. C'est l'aventure humaine, chrétienne. Et en même temps, pour sortir de la rébellion, il faut que le rebelle que je suis arrive à être tout doucement jugulé, mais pas jugulé par le bon Dieu, mais par moi-même. Le Dieu, il m'attend. Il m'a dit, tu es en rébellion contre moi, j'accepte. Et c'est quand j'arrive à prendre conscience que cette rébellion contre Dieu m'enferme de plus en plus, que j'ai... Au travers des épreuves, suite aux épreuves, que petit à petit, je veux découvrir que je suis prisonnier de moi-même, que j'ai besoin d'être libéré de moi-même, que j'ai besoin d'être libéré de la rébellion qui me coupe de Dieu et de l'amour.
Alors, quand on entend rébellion, séparation avec Dieu, on entend aussi, de votre part, Daniel Desbois, je rappelle que vous êtes psychologue, que ces épreuves, au fond, elles sont bénéfiques.
C'est une nécessité.
Elles sont indispensables, on ne peut pas...
Elles sont indispensables.
Au fond, c'est pour le bien-être de ce petit être devenu adulte.
Oui. Il y a une des paroles, j'espère que ça va me revenir en mémoire, là, c'est dans le psaume 118, qui dit ceci, avant que je souffre, voilà c'est ça, avant que je souffre, j'étais loin de toi Seigneur, maintenant je découvre tes ordres et tes commandements. Avant d'avoir souffert, voilà, c'est ça exactement. C'est avant d'avoir souffert, ça veut dire que j'étais égaré. Et maintenant, je découvre, en fait, par les épreuves, je découvre la vie. J'ai besoin de toi et je sais que tu vas m'aider parce que je découvre tes commandements. Mais vous voyez, c'est le paradoxe. Quoi.
C'est le passage obligé. L'épreuve est le passage obligé.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et dans le psaume, il est bien dit dans le psaume 118, c'est vers les 60, 71 par là, où il est dit effectivement qu'il me fallait cela, cette épreuve, il me fallait être loin de toi, il fallait que je me perde.
Jusqu'à s'égarer parfois.
Je m'égare pour pouvoir découvrir tes commandements, la richesse de la vie que tu me proposes. Et c'est par la souffrance que ça passe. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Et en même temps, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que si on voit le Christ, Jésus, qui est venu nous sortir de la mouise, quoi. Il est vraiment venu nous sortir, nous extraire de la mort. Mais comment il nous a extrait de la mort ? Par la souffrance. Puis après, il me dit, une fois qu'on est libéré, qu'on a droit au salut, qu'on est tous libérés, il nous dit, prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, moi j'ai fait le chemin pour toi. Maintenant, je te suggère de faire ce même chemin avec moi. Et tu verras que mon fardeau est facile, et ma croix est facile, mon joug est facile et mon fardeau léger. Donc ça veut dire qu'il m'invite à prendre ma croix, ça veut dire qu'il m'invite à traverser ma souffrance. Lui, il l'a déjà faite. Il me dit, mais fais-le avec moi. Si tu le fais tout seul humainement, la traversée de ta souffrance, ben, tu vas en baver, quoi. Fais-le avec moi et tu verras que le joug est facile, le fardeau léger. Vous voyez, mais c'est pour nous dire que même le Christ nous dit, la souffrance, tu vas passer par là, tu es obligé de passer par là, mais sache qu'avec moi, tu auras la vie. Si tu le fais seul, tu veux résoudre tes problèmes et ta souffrance seul, tu seras en survie. Mais tu n'auras pas la vie. C'est avec moi que tu vas l'avoir.
Alors, puisqu'on parle de souffrance, on parle de survie, on parle au fond d'un changement de vie, et puis on parle de la vie tout court. Hein. Peut-être que certains auditeurs sont actuellement, Daniel Desbois, en pleine traversée, crise, épreuve de la vie, et ne peuvent peut-être pas entendre ces paroles que vous donnez dans cette intervention et ce Vivante Église aujourd'hui. Et on peut l'entendre quand on est au cœur de la tourmente, que l'épreuve est telle que... Même des paroles de fortification, de consolation et d'encouragement ne vont pas résoudre la douleur de l'être qui traverse l'épreuve.
Bien sûr.
Alors que leur dire ?
C'est-à-dire le normaliser déjà. Dire que la croix, c'est une folie. C'est bien la parole nous le dit, la croix, c'est une folie. C'est-à-dire que l'homme n'est pas fait pour souffrir. Il n'est pas fait pour souffrir. Il est fait pour un amour infini, pour une paix infinie, pour une joie infinie. Mais... Et il est sur terre, entre pécheurs, on se fait du mal. Et voilà. Donc, il est, en fin de compte, il est contraint de passer par des épreuves. Quand on ne les cherche pas, les épreuves, elles arrivent toutes seules. Hein. Mais c'est vrai que le sens de l'épreuve, la plupart du temps, mais même un chrétien, hein, la plupart du temps, l'épreuve, mais moi aussi, hein, je suis passé par là, hein, et je passe par là des fois. L'épreuve, elle est, d'emblée, on n'a pas envie. Parce qu'on considère que c'est une malédiction, l'épreuve. Alors vous rendez compte, avant de passer du message de la malédiction à la bénédiction, dire que l'épreuve c'est une bénédiction, il va falloir tricoter hein, dans la tête et puis dans le cœur. Donc c'est normal qu'on considère que l'épreuve, ben j'en veux pas quoi. J'en veux pas de l'épreuve. L'épreuve c'est trop douloureux. Rappelez-vous les fils de la vigne. Il y en a un qui dit oui au père, qui lui propose d'aller à la vigne. Il lui dit oui. Mais il n'y va pas. C'est ça qui est intéressant, il n'y va pas. Pourquoi il n'y va pas ? Il n'y va pas parce que, quelque part, il sait que la vigne, c'est le lieu du pressoir. C'est-à-dire, c'est le lieu du pressoir pour avoir le bon vin. Il n'en a pas envie. Il dit, oui, je vais y aller, mais il n'y va pas. Le second, lui, il le sait, mais il dit d'emblée, non, je n'ai pas envie d'y aller. Donc l'épreuve, on dit d'abord, non, je n'ai pas envie de l'épreuve. Mais par amour pour le Père... Il accepte. Il sait que ça va faire mal, c'est « prends ta croix et suis-moi ». Et c'est là que le pressoir va donner le bon jus, va donner le bon vin des noces, va donner la vie. Vous voyez ? Donc l'épreuve, quand on la refuse, mais c'est normal, et il faut la refuser. Mais attention, pas trop longtemps. Que ça soit une étape, d'accord ? Mais si ça devient un état, qu'on se chronicise dans l'épreuve, là c'est beaucoup plus...
C'est-à-dire, on peut, au fil du temps... et au fil de ces épreuves, s'y complaire dans l'épreuve, Daniel Desbois?
Je ne dirais pas qu'on s'y complaise parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien, on ne peut pas s'y complaire. On a envie d'être extrait, on a envie d'un miracle. Quand on est dans une épreuve, on est enlisé, on a envie qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, on va demander, on va solliciter les autres la plupart du temps. Hein. On va solliciter les autres, on va solliciter même le médecin, les médicaments, on va solliciter, il faut
les
que ça
professionnels,
s'arrête.
Les psychologues.
Les psychologues
oui,
aussi,
par exemple.
Les psychiatres,
oui.
Tout ça, on va les solliciter. Ils ont une nécessité aussi, ils sont importants. Quand je vais voir le médecin qui tempère un petit peu l'angoisse qui me dépasse, heureusement qu'il y a un psychiatre qui est là pour me donner le médicament, qui va me remettre un petit peu plus en paix pour envisager tout doucement de traverser l'épreuve autrement. Vous voyez ? Donc, on est obligé de refuser, et il faut refuser l'épreuve. Mais il ne faut pas s'éterniser. Vous voyez, c'est là qu'il y a la difficulté. Parce que l'épreuve nous met face à nous-mêmes dans notre solitude. On n'est pas fait pour être seul. On est fait pour être avec le bon Dieu. Mais on porte en nous, c'est ça, le paradoxe. Allez, on en voit encore un autre de paradoxe.
Il n'y a que des paradoxes.
On porte ouais. Dieu en nous, c'est-à-dire la présence. On a une totale présence en nous, et en même temps, on a une totale absence en nous, dans l'épreuve. Donc, vous voyez, on te dit, mais attends, dans l'épreuve, tu as Dieu à l'intérieur de toi. Oui, mais ça, ce sont des mots. Ce sont des mots. Oui, d'accord, c'est bien gentil. Tu me dis, j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, les non-croyants, les païens, ils disent, qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Mais ils ont raison. Ils ont raison, parce que l'épreuve, ben voilà, s'il y avait un Dieu, ben il n'y aurait pas la souffrance,
il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de tremblement de terre.
Il n'y aurait pas de divorce.
Il
n'y
aurait pas de tsunami, il n'y aurait pas d'avortement.
D'avortement, il n'y aurait rien.
D'euthanasie.
Voilà, même, si oui. Dieu existait. Alors, vous voyez, ils ont un langage qui est normal. Ils ont raison. Et en même temps, ils ont tort. Donc là aussi, ok, mais la raison, va chercher toi les solutions au tsunami que tu vas faire. L'homme est dépassé. Donc il y a des tsunamis psychologiques qui sont des épreuves, certaines. Et puis, on est limité, on est dans une pauvreté extrême, on est dans notre rien. Ah oui, alors mais tu es dans ton rien, mais tu as le tout en toi, à l'intérieur de toi. Mais alors, pour passer du rien au tout, il va falloir quand même avoir des tricotés dans la tête pour pouvoir comprendre, mais comment je vais pouvoir m'orienter? Et c'est le hasard qui fait que sur ma route, je vais rencontrer quelqu'un, peut-être, qui va me parler de Dieu, qui va me parler de la Vierge Marie, qui va me parler de l'amour de Dieu. Ça va m'interpeller, mais non, moi je ne suis pas croyant, ou ça, oh, non, Dieu n'existe pas. Je vais vous raconter une petite histoire.
Et ça sera la dernière et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite d'un Vivant Église.
Okay.
On termine avec une petite histoire. Allez, on aime bien les petites histoires.
Hein,
voilà. Ça sera un peu aussi la conclusion de ce magazine du jour.
D'accord, je fais court. Il y a ma petite fille qui a 20, à ce moment-là, elle a 22 ans. Aujourd'hui, elle en a 24. Et elle me pose une question. Ah non, c'est moi qui lui pose la question d'abord. Je lui demande, est-ce que tu crois en Dieu ? Oh là, papy, elle me dit, tu sais, oh là là, c'est quoi, c'est un petit peu, t'es un peu has-been, hein. Non, c'est plus d'actualité, ça. Ah bon, d'accord. Alors je lui pose la question, je lui demande, est-ce que tu crois en l'amour? Ah ben oui, papy, ben oui, je crois en l'amour. Mais d'où il vient l'amour? Ben, elle me dit, ben l'amour, c'est un homme et une femme qui s'aiment. Oui, d'accord, donc je veux bien, c'est un homme et une femme qui s'aiment, mais l'amour là qu'il y a entre eux, là, d'où il vient cet amour-là? Alors, elle a une tchatche, c'est pas possible, mais là, je peux vous dire que c'était le silence, là. Hein. Elle me dit, oh papy, tu me poses des questions, là. Oui, mais réponds-moi, d'où il vient l'amour qu'il y a entre un homme et une femme? Alors, elle me dit, des chromosomes, hein. Ah oui, d'accord. Je dis, ah, ce sont les chromosomes qui se combinent entre eux et qui vont faire, ils vont générer de l'amour. Elle me dit, bon, papy, je crois que je suis en train de dire des bêtises, tu vois. Et on arrête là. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu, il va falloir expliquer qu'il n'existe pas. Ben, il suffit de parler de l'amour. Voilà, j'ai fini mon histoire.
Alors, nous, on aime bien les histoires et puis on aime bien les émissions aussi. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver dès la semaine prochaine dans ce même magazine Daniel Desbois et je vous conseille la lecture aussi de cet ouvrage paru donc récemment aux éditions Baudelaire. Il y a une approche à la fois psychologique, puisque ça a été aussi, et c'est votre métier, Daniel Desbois, de psychologue, et puis une approche dans la deuxième partie, et puis on le verra au fil des rendez-vous. Une approche spirituelle. Et ce livre, un beau titre, sur une radio aussi comme la nôtre, « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur », c'est le sous-titre, « Libère-moi de moi ». C'est tout un programme, au fond, c'est un programme au changement et à la conversion. Daniel Desbois, à la semaine prochaine et merci.
À la semaine prochaine.